Actu SF, les podcasts.
C'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus de manière si matinale aux Utopiales en ce dimanche et en ce temps pluvieux. Pour commencer les échanges sur cet espace CIC, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Merwane, auteur, illustrateur, scénariste, réalisateur, homme de multiples talents. Je pense que de toute façon, nous sommes là pour parler de toi, de ton histoire et surtout te laisser parler. Et nous avions tout d'abord une petite question. Est-ce que vous connaissez l'œuvre de Merwane ? Vous avez le droit de lever la main, de ne pas lever la main. D'accord. Donc, si vous avez les connaisseurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Les néophytes, n'hésitez surtout pas à lever la main. Il y a un micro qui est juste là pour poser des questions si vous le souhaitez. On veut que cet échange soit interactif, si vous le voulez, malgré l'heure très matinale de cette rencontre. Et moi, je vais te poser une première question. Bonjour Merwane.
Bonjour à tous, merci d'être venu.
C'est quoi ton parcours et comment tu t'es rendu compte que le dessin était ta passion ?
Dans ma famille, avec mon grand frère, on dessinait pas mal déjà. C'était vraiment une récréation de choix. Je sais que notre maman était très fan de nos créations, elle nous poussait à la création. Et quand il s'est agi de faire des choix professionnels, mon père a voulu qu'on valide un peu tout ça par des écoles, quoi. Ça lui faisait très peur. Et du coup, il nous a encouragés à passer des concours. Et j'ai suivi le chemin au début de mon frère aux arts décoratifs de Paris. Moi, ce qui m'a tout de suite branché, là, donc évidemment, dans les prépas artistiques, c'était le dessin en soi, quoi. Le croquis de nu, le travail sur le vivant, c'était vraiment ce qui m'attirait le plus. Avant le travail de l'image même, où je comprenais pas vraiment ce qu'on voulait m'expliquer en graphisme ou en typo, c'était pas ça qui m'attirait au départ. Et dès que je suis arrivé aux arts déco, donc on va dire une année après le bac, quoi, j'ai fait une prépa, puis après je suis arrivé aux arts déco, j'ai eu la chance de passer le concours. Et on est tombé sur une semaine bloquée où il y avait la possibilité de réaliser une semaine d'animation, cinéma d'animation. Et là, c'était tombé dedans, quoi. Il y avait une petite caméra, un ordinateur. Et donc, pendant une semaine, j'avais plus que ça en tête. C'était de concrétiser dans le cinéma d'animation, puisque donc aux Arts Déco, on a différentes sections. Et 4 ans plus tard, ça voulait dire que j'allais devoir réaliser un court-métrage. Donc, quand on a fait juste 30 secondes, ça paraît quand même quelque chose d'impressionnant. Donc, j'avais 4 ans pour me préparer à cette échéance-là. Et donc, j'ai réalisé ce film au bout de 4 ans. Ouais. J'ai réalisé ce film et en parallèle, pour passer le diplôme, il fallait écrire aussi ce qu'ils appelaient un mémoire, donc c'était, on va dire, 3-4 mois de travail. Et comme quoi j'avais déjà ça en tête, j'ai choisi la thématique de la mise en scène, mais en bande dessinée. Parce que j'étais plutôt stabilisé en animation, mais j'avais déjà des envies de bande dessinée. J'avais reçu aucun cours et je me rendais compte que j'avais pas de notion de composition. Qu'est-ce que c'est qu'une planche
Est-ce que tu étais lecteur de bande dessinée déjà ?
J'étais un grand lecteur. Mais ça, c'est pas parce qu'on est lecteur qu'on comprend la grammaire, et c'est ça qui me manquait. Et du coup, j'ai fait ce mémoire d'analyse, de mise en scène. Je sais pas si ça existe, j'en ai jamais trouvé, donc peut-être que c'est un des seuls travaux sur la mise en scène en bande dessinée, même si voilà, la majorité des pratiquantes et des pratiquants en fait, ont intégré ces règles sans même les avoir apprises. Mais voilà, donc ça m'a permis en sortant de là d'avoir un film d'animation et puis d'avoir déjà une base de compréhension du métier de la BD et de me lancer assez vite en fait dans mon premier ouvrage qui deviendra Fausse Garde.
On peut peut-être montrer la couverture.
Avec plaisir.
Je vais en profiter. Hop. Tac. Mince. Ça marchait très bien tout à l'heure si je me gourre pas de bouton. Hop. Fausse Garde doit être juste. Après, voilà.
Donc ça, c'est la réédition. C'est un livre qui a suivi un parcours assez chaotique, puisque la toute première version, c'était un album de 46 pages qui s'appelait Pancat, qui est le nom de l'art martial. Et 4 ans après, donc après la réalisation d'un deuxième court-métrage qui m'a pris énormément de temps et d'énergie, je suis retourné voir mon éditeur en lui parlant de la suite. Il avait complètement oublié que ce livre existait. Et il m'a dit, bah, écoute, ça fait 4 ans, les gens n'attendent plus de suite, le livre s'est mal vendu. Et il a été assez intelligent, c'est qu'il n'a pas fermé la porte. Il m'a dit, bon, si tu veux vraiment le faire, on change le titre et on le fait passer pour une nouveauté. Par contre, on publie l'intégralité du récit. Ce qui fait que de 46 pages, je suis passé tout de suite à un livre de 200 pages. J'ai fait la deuxième et la troisième partie. Donc, si vous voyez le livre, il est chapitré en 3 parties. Et vous verrez une grande différence de maîtrise entre la première et la deuxième partie, puisqu'entre les deux, il y a 4 ans. Et la réalisation de mon deuxième court-métrage, qui dure 15 minutes, qui représente ouais, une quinzaine de milliers de dessins. Enfin voilà, il y a eu beaucoup d'expériences entre la première et la deuxième partie. Et j'aime beaucoup ce livre. On l'a réédité à l'occasion du succès de Mécanique Céleste, dans un beau format dur. Voilà, c'est un livre que je défends toujours, qu'à chaque fois j'essaye de remettre en avant, parce qu'il a eu une sortie difficile. Et ce livre est très apprécié et par moi et par beaucoup de lecteurs qui ont eu la chance de le lire. Donc voilà, je le défends comme le premier-né d'une longue suite de livres.
Est-ce que tu peux d'ailleurs nous résumer l'histoire, enfin, sans trop faire de divulgachage, mais le thème de Fausgarde, justement?
Bah, Fausgarde, c'est donc dans le milieu des arts martiaux, dans un Orient fantasmé, plutôt plus ou moins médiéval. En fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui arrive un peu de nulle part de sa campagne pour essayer de réussir dans ce domaine d'arts martiaux. Donc ça, c'était un peu la métaphore de moi arrivant dans le monde du dessin ou de l'édition, ne connaissant rien et n'ayant que son envie de faire et de prouver sa compétence. Donc je me projetais beaucoup dans ce personnage. Et en fait, ce qui va faire le sel de cette histoire, c'est qu'il se retrouve très vite pris entre deux enseignements, entre deux maîtres. Et en fait, il est censé choisir, mais ne choisissant jamais, il amène à la réunion forcée de ces deux maîtres et à une espèce de combat final entre deux visions extrêmement opposées du monde. Et c'était vraiment l'objectif principal du livre. Donc au départ, on ne sait pas forcément que ça va aller vers cette échéance. Et plus ça va, plus c'est la réunion justement des contraires. Et je vous laisse découvrir l'issue.
Et tes sources d'inspiration pour l'époque, comment tu t'es dit, je vais faire une bande dessinée sur d'art martial?
Ben, moi, j'aimais déjà beaucoup les récits d'arts martiaux, mais je les trouvais souvent pas très ancrés dans le réel, quoi. Souvent, c'est des grandes bagarres où les gens ont mal, mais ils se relèvent tout de suite, etc. Et moi, je pratiquais donc les arts martiaux depuis 3-4 ans, et donc j'avais vraiment une expérience personnelle tout à fait amateur, mais on va dire amateur éclairé, puisque on en voyait quand même pas mal. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que j'avais une certaine légitimité à ancrer mon histoire dans un récit martial. Je ne me voyais pas faire ça en ayant juste eu des lectures ou en ayant juste regardé Bruce Lee. Donc voilà, on voit même dans le livre l'évolution martiale évoluer au fur et à mesure que moi-même j'évolue dans ma pratique, quoi. Puisque j'étais plus parti du kung-fu dans l'enseignement, et puis après on faisait partie des premiers à pratiquer ce qu'aujourd'hui tout le monde regarde, qui est le MMA, là, le combat un peu total. Donc nous on pratiquait ça quand ça faisait encore un petit peu peur à tout le monde. Et dans la deuxième partie de Fausgarde, on retrouve des combats avec des règles particulièrement dangereuses pour les pratiquants.
Mais en travail préparatoire, de fait, tagué à la salle avec à la salle d'entraînement avec ton petit carnet, tu t'inspirais des positions de tes partenaires, tu.
Alors moi, je suis un dessinateur d'animation, c'est-à-dire que je travaille énormément avec le ressenti. J'aime pas travailler à partir d'une photo ou à partir d'un modèle. Ça, je vais le faire, on va dire, pour travailler mes bases. Mais ensuite, dans le travail d'animation, ce qui va être important, c'est d'être comme un comédien, c'est-à-dire de s'intégrer, enfin, de convoquer la situation et en fait de la vivre, c'est-à-dire de la ressentir. Et à partir du moment où on est vraiment intégré dans une situation, on commence à sentir les tensions, on devient acteur et en fait ça facilite énormément le dessin parce qu'en étant acteur, on perçoit toutes les tensions un peu comme si la feuille devenait un miroir. tu vois. Et tant que la tension n'est pas au bon endroit, bah, on n'a plus qu'à la retravailler parce qu'on est soi-même pénétré par l'action. Et moi, c'est de loin la façon de travailler qui me paraît la plus expressive. Parce que souvent, on va beaucoup plus loin qu'une photo, en fait. Une photo, elle va vous définir des traits particuliers, des rides, des attitudes. Alors que quand vous la ressentez vous-même, vous êtes capable d'exagérer toutes ces tensions jusqu'à temps que ça soit beaucoup plus explicite pour les spectateurs.
Et narrativement, en termes d'histoire et de points d'imaginaire, ça t'est venu dès le départ ou de rajouter un soupçon d'imaginaire d'asie, enfin pas d'asiatisme, mais de cadre fantasmé de.
Ouais, ben moi c'est par rapport à mon histoire personnelle et puis mes appétences. Moi donc j'étais quand même assez lecteur de lecture japonaise et à travers ça j'avais les histoires de mon père qui est d'origine algérienne et qui me racontait l'Algérie sans qu'on y soit jamais allé. Donc je fantasmais beaucoup le Maghreb ou l'Orient et donc je me suis beaucoup amusé à créer un Orient de conte martial, donc il y a énormément de moi, mais en brouillant plein de pistes pour ne pas encombrer le lecteur avec tout ça, quoi. J'aime bien créer comme ça.
Et une fois ce premier album, Fausse Garde est un peu un pivot, tu disais, le premier pas de ta carrière, tu as continué sur quoi comme projet? Tu as directement enchaîné sur d'autres projets en tant que scénariste ou dessinateur? Comment ça s'est passé ton entrée dans le monde de l'édition?
Mais en fait, ce qui s'est passé pour mes deux premiers bouquins d'ailleurs, c'est qu'après des livres comme ça, moi j'étais assez exténué quand même. Parce qu'après mon premier film a eu beaucoup de succès. Mon deuxième film, qui représentait 3 fois plus de travail, n'a pas eu de spectateurs. Je sais pas, il n'a peut-être pas été envoyé en salle, donc c'était un coup dur. Après ce film qui a été un coup dur, j'ai enchaîné sur Fausse Garde. Et je me suis dit, bon, bah, si ça marche pas, là ça va être. Une succession d'échecs qui va être dure à avaler. Et puis, il n'a pas marché non plus. Donc, en fait, je suis rentré très tôt avec mon film de fin d'études, avec un film qui a vraiment bien marché. J'ai fait le tour du monde avec et ensuite, je suis allé d'échec en échec, quoique j'apprécie ces travaux. Et donc, après celui-là, j'ai senti la nécessité de travailler avec quelqu'un pour plus être tout seul à m'écrabouiller la tronche. Et c'est là que j'avais intégré un atelier collectif. Et je crois qu'à partir de là, je travaille sur L'or et le sang, où là on est carrément à quatre, parce qu'il y a deux scénaristes et deux dessinateurs, ce qui était plutôt reposant. J'étais moins impliqué dans la réussite ou l'échec de mes projets, donc ça me faisait du bien. Et en parallèle, je travaille avec Bastien Vivès sur Pour l'Empire, où on est deux à écrire et deux à dessiner aussi. Donc je pense que c'est un moment qui m'a fait du bien de me détacher un petit peu. Voilà. Et ensuite, je redémarrerai sur Le Bel Âge, où là, je suis complètement en solo.
On va peut-être faire un arrêt sur le travail collectif, justement. Comment ça se passe pour toi de travailler soit quatre, soit huit mains? Est-ce que c'est justement c'est moins de responsabilité, mais comment ça fonctionne généralement? Le scénariste, quand tu es dessinateur, le scénariste vient directement avec ses idées, ou tu as toujours un peu la possibilité de jouer avec ce que le scénariste t'apporte?
Bah pour moi, ça a toujours été différent. Quand j'ai signé donc avec Fabien Nury et Morin de France, je devais reconnaître que je ne connaissais pas Fabien Nury, qui est en fait un scénariste extrêmement, extrêmement reconnu. Et donc, je n'étais pas impressionné par le personnage. Mais du coup, oui, j'essayais de retoucher un petit peu des petites choses à la marge, et ça passait pas du tout. C'était vraiment pas possible. Donc, assez vite, je me suis détaché de l'intervention possible. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la contradiction pour la contradiction. C'est juste que quand je trouve qu'il y a des choses qui pourraient améliorer le projet, je me permets. Bon, là, ce n'était pas possible, donc j'ai vite arrêté de ça. Avec Bastien, c'était très différent parce que on écrivait nos scènes à l'avance. Ensuite, on se divisait l'album par séquence, donc on était responsable de nos séquences. Et ensuite, on réalisait tout ça et on laissait nos dialogues vierges. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, quand on s'est mis à écrire les dialogues, ben, je trouvais que la partie de Bastien, ça colle pas au dialogue. Donc en fait, j'ai réécrit tous les dialogues de l'album. Et ce qui s'est même passé, c'est qu'à la fin, sur le troisième volume, j'ai même réécrit des morceaux d'histoire. J'ai redirigé, alors que tout était posé, les scènes étaient posées, les dessins, les actions, c'était. Donc tu vois, des façons très différentes d'aborder les livres et qui fonctionnent. Les deux fonctionnent puisque les deux livres sont plutôt sympas. Et moi, j'aime bien varier les approches et les méthodes. Ça me réveille et puis ça me permet de rester vivant dans la création du livre. C'est vrai que quand j'ai un scénario qui est totalement écrit, totalement dialogué et que chaque jour j'ai juste à adapter les scènes, j'ai du mal à garder la tension créative dans ce que je fais. Et donc plus ça va, plus je laisse toujours la porte ouverte à des surprises que je me ferai moi-même, même quand je travaille.
Et en termes de couleurs, par exemple, ça t'est arrivé d'être coloriste, il me semble.
Non, j'ai été coloriste que pour moi-même.
Que pour toi-même?
Ouais.
Est-ce que la couleur, par exemple, que tu ne maîtrises pas forcément dans le processus à plusieurs mains, est quelque chose de bloquant ou qui te permet une certaine liberté de travail?
Bah, c'est un peu ce que moi j'estime être la plus grande qualité d'un réalisateur, c'est de s'entourer de personnes de confiance et talentueuses. Donc moi c'est ce que j'ai fait tout de suite, j'ai eu de la chance. Par exemple, que sur Pour l'Empire, une amie à moi qui est réalisatrice d'animation avec qui on a fait nos classes, Sandra Demasia, accepte de faire les couleurs de notre bouquin. C'est-à-dire que Pour l'Empire, ça n'a pas été évident parce que c'est pas une couleur classique. Mais quand on l'a présenté aux éditeurs, ils étaient un peu frileux. Et finalement, à la sortie du livre, c'est vraiment la partie qui a été le plus soulignée par la presse et la critique. C'était la qualité de la couleur, justement. Et moi, j'étais ravi de ça. Et à mon sens, je ne pense pas que ce soit une bonne idée ou que je sois capable de travailler avec des gens à qui je ne fais pas entièrement confiance pour leur partie. Si j'ai des gens, des personnes où je me dis qu'il faut absolument que je corrige, que j'intervienne, que je leur réexplique, je pense que ça ne se passera pas bien. Donc, je fais en sorte d'être très admiratif des gens avec qui je travaille et de leur faire confiance. Et ça s'est toujours très bien passé, en fait.
Tu commençais à évoquer le bagage. Je pense qu'on va faire un petit point d'arrêt sur le bagage, cet album qui possède une grande partie de thématiques personnelles. Est-ce que tu peux en parler?
Ouais, bah, Le Bel Âge, c'est donc un livre qui raconte l'itinéraire de trois jeunes filles de 20 à 25 ans dans un espèce de Paris tout à fait contemporain. Et c'est le livre que j'ai cherché à écrire depuis 10 ans, justement, quand j'ai eu la trentaine. Je voulais raconter mes 20 ans, mais je ne savais pas par quel biais le prendre, parce que c'était des années extrêmement intenses. 20-25 ans, où il s'était passé évidemment plein de choses, comme pour la plupart d'entre nous, et qui me laissaient des traces vraiment vives. Et à chaque fois que j'essayais de le raconter, je voyais bien que j'étais pas sur la bonne dynamique. C'était encore plein de passion, de revanche, d'envie, de voilà. Et je voyais bien que c'était pas encore prêt à sortir. Et il a fallu attendre 10 ans pour que je me retrouve dans une situation particulière. Après avoir vidé l'appartement de ma grand-mère qui venait de nous quitter. Et tout à coup, j'ai le chemin sur l'époque passée s'est éclairé. Je ne m'intégrais plus dans l'histoire, mais tout à coup, je pouvais la voir à distance. Et comme je raconte dans la postface de la réédition, j'ai eu un regard plein de tendresse pour cette époque-là, pour moi, pour nous, pour les filles que j'avais aimées, pour les amis perdus. Et je me suis dit, voilà, c'est avec cette énergie de tendresse que je vais raconter l'histoire. Donc elle est pas toujours facile, elle est parfois dure, mais il y a vraiment un amour inconditionnel des protagonistes qui fait que j'ai pu servir ces histoires et je suis très 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 content d'avoir pu faire ce livre. Je pense que la première partie, le premier livre, c'est peut-être ce que j'ai fait de mieux, de plus intense dans tout ce que j'ai fait en bande dessinée, je pense. C'était très personnel. J'écrivais les séquences un peu 4 par 4, sans être sûr de ce que je ferais le lendemain. Du coup, il y avait une grande intensité dans l'écriture et dans le récit.
C'est un processus créatif qui t'a pris combien de temps au final, une fois que tu avais la forme, que tu étais sur la forme de production, cet album?
Bah donc, comme je te disais, 10 ans de gestation. Et puis ensuite, je faisais une à deux pages par jour. Ça allait vite. C'était un dessin rapide. Pour lequel je ne faisais pas la couleur, donc ça m'épargnait cette étape-là aussi. Et en fait, les albums du Bel Âge se sont faits très vite, mais un peu en état second, quoi. Comme un état de transe, mais parce que c'est comme quand on a acquis assez de matériaux et qu'on est prêt et que là, ça part, quoi. Donc, plus je suis prêt, plus les albums vont vite. Sinon, des fois, je passe énormément de temps, mais parce que ça n'est pas encore mûri, quoi. C'est comme une graine qui est pas encore là à temps, faut attendre, faut attendre.
On va peut-être parler d'un album qui parle de science-fiction, enfin, qui est ancré dans un univers de science-fiction qui s'appelle La Mécanique Céleste. Est-ce que vous avez lu La Mécanique Céleste dans le public? Vous pouvez lever la main, c'est plus simple. Donc on va vraiment faire un arrêt sur La Mécanique Céleste. On est désolé, on n'a pas la couverture, la faute nous en incombe. Mais moi, je voulais revenir sur cet album. D'où t'es venue l'idée de l'album? Est-ce que tu peux nous résumer très sommairement?
Résumer l'idée très sommairement.
Ou avec pas sommairement et avec plus de temps.
C'est-à-dire, l'histoire, le pitch définitif de la BD, c'est donc on est dans un univers post-apocalyptique en 2068. Toutes les catastrophes qu'on nous annonçait sont arrivées. On a des centrales qui ont explosé, le niveau des eaux qui a monté, une espèce de retour à l'état de débrouille absolue est là. Et on retrouve donc une jeune fille qui vit carrément en haut de sa cabane de chasse et de recyclage de vieux objets. Donc on se dit que c'est pas un monde très, très désirable, mais en fait, ça se passe plutôt bien dans la reconstruction. On a deux jeunes gens de 17 ans, très dynamiques, très vifs, qui se posent absolument pas de questions morbides ou quoi que ce soit. Donc moi, c'était la base de création de cet univers, c'était de dépasser l'angoisse de la promesse apocalyptique, écologique, etc. Donc c'est pas du tout un livre qui remet en question ce qui va se passer, mais c'était la possibilité de le dépasser, c'est-à-dire que tous les éléments qui ont amené à la catastrophe sont là, mais on revit, voilà, on revit derrière, et ça raconte donc un pays complètement éclaté, puisqu'on se retrouve en forêt de Fontainebleau, c'est très sauvage, dans une petite société qui vit de culture du riz, parce qu'évidemment avec la montée des eaux, le riz ça pousse, puis il fait chaud, et en fait ils ont retrouvé une sorte d'équilibre qui marche à peu près. Et on a une cité voisine dont ils ignoraient l'existence puisque tous les territoires sont coupés par les eaux, qui les retrouvent pendant leurs élections tribales du village et qui leur proposent un marché qui est de les défendre contre une partie de leur production de riz, sauf qu'en fait c'est un marché pour lequel ils n'ont pas vraiment le choix parce que sinon ils leur font comprendre qu'ils vont leur mener un dialogue armé. Comme ils disent, donc eux n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'énergie, etc. Et il y a une troisième entité qui leur dit qu'ils ne sont pas obligés d'accepter, qu'il y a une valeur supérieure à laquelle ils peuvent recourir, qui s'appelle la mécanique céleste. Et donc, ils s'empressent d'accepter sans savoir de quoi il s'agit. Et en fait, il s'agit d'un rituel sacré auquel font appel les habitants de Fortuna quand il y a un véritable litige. Et en fait, ce litige, c'est un rituel sportif qui s'apparente à la balle aux prisonniers, en fait, à laquelle on jouait quand on était petit. Et en fait, cette idée m'est venue à un moment de grand désespoir dans l'écriture de ce livre, où je ne savais pas comment ils allaient régler leur conflit. Est-ce qu'encore une fois, il allait falloir se tirer dessus, s'en brocher s'entre-dévorer. Je me suis dit, non, c'est l'énergie enfantine qui, moi, me faisait tant de bien quand j'étais petit, qui va régler les problèmes. Et donc, on se retrouve de manière assez étonnante à jouer le destin des peuples par une partie, voire trois parties de balles aux prisonniers qui ne manqueront pas de rebondissements.
Jolie blague. Tu as décidé de cadrer ça dans un univers très science-fictionnel. Es-tu consommateur de science-fiction pour ta part?
J'ai quelques grandes références. On parlait d'Akira. Mad Max, mais des grands classiques en fait. J'ai un petit peu lu Asimov. Et en fait, pour l'écriture, je ne suis pas du tout l'auteur d'un genre en particulier, mais je m'étais posé la question après tous mes échecs éditoriaux. Je m'étais dit, mais peut-être que tu cherches un peu les problèmes quand même, parce que tu fais des bouquins dont tu n'es même pas sûr que toi-même tu les lirais en fait. Quand tu rentres du travail, que tu es fatigué, que tu veux te détendre, est-ce que tu vas ouvrir un bouquin sur l'histoire de trois jeunes filles qui galèrent dans la vie? Donc à un moment donné, j'ai dû me regarder en face et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te fait plaisir, toi, quand tu allumes Netflix? Tu tapes quoi? Tu tapes drames sociétaux? Tu tapes quoi? Et puis, je me suis rendu compte que je tapais aventure ou SF, que ça me faisait du bien, ça me faisait rêver. Et donc, il a fallu à un moment donné assumer mes propres envies de lecteur sans en faire quelque chose de léger, de mièvre, voilà. Et c'est là que je me suis dit, écoute, alors maintenant, vas-y, écrit pour le lecteur que tu es. Et là, je me suis remis à en lire un petit peu, ouais. Je me rappelle d'un très bon bouquin qui était La fille automate qu'on m'avait conseillé.
Ouais,
Bachi Galoupi, magnifique, super bouquin. Donc j'en ai lu, ouais, j'en ai lu un petit peu pour l'écriture du livre, mais j'ai pas fait trop de zèle non plus, parce qu'en plus on est quand même dans un univers post-apo où on serait presque dans l'inverse de la science-fiction, dans le sens où la science a quasiment disparu en fait, puisqu'ils ne font que recycler ce qu'on a laissé dans fouiller les déchets et les réutiliser dans un espèce de et puis ils les ramènent dans un marché boursier pour faire des échanges, du troc. C'est assez marrant parce que ils ont quand même gardé la bourse et le marché, donc je me suis bien marré là-dessus. Mais en termes de SF, c'est presque moins de la SF qu'un film d'émancipation. Enfin, j'appelle déjà un film. Je dis un film parce que c'est inspiré d'un film sur l'indépendance de l'Inde et qui a la même trame en fait, qui s'appelle Lagan. Je ne sais pas si tu peux passer la couverture de Lagan. C'est un film que moi j'avais beaucoup aimé, qui est un Bollywood d'ailleurs. Et en fait, qui raconte l'histoire d'un petit village pendant l'occupation anglaise. Et à un moment donné, donc, les seigneurs locaux augmentent encore l'impôt sur le blé. Et le blé, c'est le lagan. Et les paysans n'en peuvent plus. Ils disent qu'ils vont mourir. Donc, ils sont au bord de la révolte ou du suicide. Et les grands seigneurs, les magnanimes seigneurs anglais arrivent. Et en fait, ils leur proposent, sachant qu'ils vont gagner, une partie de cricket. Donc comme ça, c'est la même trame que ma bande dessinée. Et la partie de cricket est formidable parce qu'évidemment, ils ne savent pas jouer, mais ils apprennent, ils font preuve d'inventivité, etc. Et ils trouvent des astuces, sachant qu'aujourd'hui, l'Inde, c'était il y a 5-10 ans, a battu l'Angleterre au cricket. Et c'était un symbole national extraordinaire. Je veux dire, c'était à nouveau, c'était comme une nouvelle indépendance par rapport aux Anglais. Donc en fait, quand je raconte cette histoire, je me rends compte que quand même, c'est des symboles qui sont extrêmement forts. C'est de récupérer, quand on récupère les valeurs supérieures des occupants, tout à coup, c'est comme une émancipation. Et c'est un peu ce qui se passe dans Mécanique Céleste.
Et justement, on avait peut-être envie de montrer ta manière de procéder et tes recherches par rapport à la Mécanique Céleste. On a quelques planches qui...
Ouais. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, en fait, dans ce projet, voilà, on était sur quelque chose d'assez sombre, justement. C'était avant que je me dise qu'il fallait que je fasse quelque chose de plus léger, de plus frais, de plus accessible. Et donc, j'étais parti dans une histoire d'anticipation assez sombre, avec deux jeunes gens, mais qui tournaient mal, qui étaient abandonnés. Et c'est mon éditrice, parce que je voulais, pour la première fois, comme je vous disais, je ne voulais plus travailler tout seul. Je voulais être accompagné par quelqu'un dès la création du projet. Et je ne voulais pas imposer quelque chose en étant le seul à me battre pour. Et donc, avec mon éditrice Pauline Mermet, très vite, je lui ai parlé du projet en lui disant « c'est avec toi que je veux le faire ». Parce que je voulais qu'elle puisse le porter, qu'elle puisse porter quelque chose qu'elle aime elle aussi dès le départ. Et très vite, elle m'a dit « Ouais, mais elle est sympa ton histoire, mais elle est triste, quoi, elle est sombre. » Donc moi, je me suis défendu, je dis « Mais écoute, toutes les histoires d'amour sont tristes. Roméo et Juliette, c'est triste. Tristan et les deux, c'est triste. Et c'est des grandes histoires. » Mais elle avait envie de quelque chose de frais. Et c'est là que je suis allé chercher dans mes ressources de fraîcheur, justement, en me disant « Mais moi aussi, j'aime ça. » Moi aussi, j'aime ça. J'aime Dragon Ball. J'aime des choses comme ça qui me réjouissent. Et c'est là que je suis allé chercher ailleurs que dans mes propres douleurs. Je suis allé chercher dans la partie lumineuse de moi-même. Et la naissance de ma fille m'a beaucoup aidé parce que c'est une petite fille extrêmement joyeuse. Elle avait 3-4 ans. Elle ne se posait aucun problème, aucune question existentielle. Et elle m'a beaucoup inspiré pour le personnage et puis pour la fraîcheur de l'univers aussi, dans la façon d'aller de l'avant, de ne pas porter de questions morales ou de jugements, juste de tirer le maximum de son potentiel. Ça m'a beaucoup aidé à transformer le projet. Donc les premières recherches que vous verrez, c'est des recherches donc sur le début de cet univers qui était assez sombre, qui n'engageait pas vraiment à croire en l'avenir. Et petit à petit, les personnages ont évolué, l'univers a évolué. Et je pense que tout ça, c'est toujours dans la construction du livre. Ce n'est pas des étapes qui sont faites pour rien, c'est des étapes qui permettent à l'histoire et puis à moi-même qui m'ont permis de progresser et d'évoluer vers une autre étape de ce que je me permettais d'imaginer aussi. Parce que l'air de rien, ça m'a permis d'imaginer la possibilité d'être heureux ou d'être joyeux, vous voyez. Et ce n'est pas anodin comme possibilité. C'est-à-dire que je pense que pendant un temps, je n'imaginais le monde que sur le déclin, vous voyez. Et en faisant ce travail d'aller vers de la lumière, ça a changé ma vision des choses. C'est une vision maintenant qui est beaucoup plus ambivalente. Pour moi, le vieillissement ou le temps qui passe ou les promesses de catastrophe n'ont plus vraiment d'impact. C'est un cycle maintenant. Je vois ça comme un cycle. À chacun de trouver l'énergie qui lui correspond le mieux pour s'exprimer, pour développer son potentiel. Je pense que ça a été vraiment un passage initiatique, l'écriture de ce livre, et un vrai tournant dans ma personne, en fait.
Et cet ami, combien de temps a formalisé justement le switch d'univers entre quelque chose d'assez pessimiste et quelque chose de plus bienveillant et plus apaisé?
Est-ce que c'est bienveillant à répéter? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est dynamisant. Et enthousiasmant, voilà, je dirais. Et ben, je pense que c'est 2 ans de travaux et d'aller-retour avec mon éditrice, et puis à m'énerver moi-même en me disant, mais non, mais ça va, c'est bien comme ça, pourquoi est-ce qu'on veut me faire changer? Pourquoi, voilà. Et d'accepter aussi, d'accepter de ne pas être le seul aux manettes à vouloir imposer sa noirceur au monde. Je pense que ça fait du bien à tout le monde.
On va peut-être montrer quelques planches.
Ben là, on voit de la
Voilà.
lumière qui commence à arriver.
Et comment tu t'es inspiré du coup de l'architecture urbaine,
Ben
de
ça, par exemple,
Gavus?
c'est vraiment un immeuble de Fontainebleau. Il y a juste qu'il y a 2,50 m de moins à cause de la flotte. Et je me suis amusé à rendre. C'est parce que moi, j'ai grandi en banlieue. Et moi, je suis assez navré par ces structures-là. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait les rendre sympathiques, quoi? Est-ce qu'on pourrait réenchanter la banlieue comme ça? Imaginez que tout à coup, les protagonistes puissent prendre en main leurs habitations et en faire ce qu'ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, quand vous vivez dans un HLM, si l'ascenseur ne marche pas, bah, vous ne pouvez rien y faire. C'est quand même dramatique. Et je me suis dit que c'était aussi une partie du problème. C'était de pouvoir que chacun puisse se réapproprier sa vie, son lieu de vie et d'existence. Et par exemple, ce lieu qui en soi n'est pas très, très folichon aujourd'hui, je le trouvais plus intéressant après la catastrophe dans mon dessin. J'ai plus envie d'y vivre, vous voyez. Donc c'était vraiment une façon de réenchanter le monde après la catastrophe, un peu comme après un brûlis dans une forêt, où on a des jeunes pousses qui reviennent, quoi. Bah, c'était quand même mon idée, c'est-à-dire d'accord, ça aura lieu, mais essayons de montrer l'énergie. Et donc les protagonistes ont 17 ans, parce que moi je pense que c'est l'âge où on a le plus de force vitale. On se pose pas de questions, on est là, quoi. Et je les ai pris à ce moment-là pour témoigner d'une essence vitale puissante dans la reconstruction du monde. Là, c'est une des étapes de création du personnage, qui ne sera pas le personnage définitif, mais il y a déjà ces petites bottes rouges qui sont les bottes de l'enfance, les bottes de pluie qu'on avait quand on était petit. Donc moi, ça me faisait plaisir de lui faire ces bottes-là, sachant qu'évidemment, comme c'est le futur, il n'y a plus de normes ou de codes, on porte ce qu'on trouve. Donc il y a un mélange un peu païen qui est marrant. Elle a une queue de renard, on m'a beaucoup posé la question de la queue de renard dont je parlerai dans l'album suivant. Mais pour moi, c'était vraiment un retour à l'animisme, à la vie sauvage. Et donc voilà, elle a plein de stigmates comme ça, d'un nouveau monde qui mélange les influences. Ça, c'était un dessin un peu charnière du tempérament assez, assez révolté du personnage. Ouais, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dessin. J'ai réutilisé plusieurs fois dans mon image de profil. Ça fait partie des recherches d'aquarelle aussi, où je commence à trouver les rapports de teintes, de couleurs. J'ai opté pour une aquarelle quand même assez vive, assez dynamique, où d'habitude on l'utilise plus rompue, l'aquarelle. Et là, je garde des couleurs très tranchées, très fortes.
D'ailleurs, le choix de qu'aquarelle, est-ce qu'il s'est imposé dès le départ ou tu c'est venu au fur et à mesure pour mettre plus de lumière dans tes dessins?
Ben en fait, comme je te disais, comme je pense que c'est vraiment une révolution mécanique céleste dans mon travail et dans ma façon d'aborder le monde, j'ai dû révolutionner mon dessin. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec des outils que je ne connaissais pas, que je n'utilisais pas. Et en fait, dès le départ, quand je fais mes recherches sur ma première BD, Fausse Garde, je fais des tests à l'aquarelle. Et parce que j'aime cette technique. Et je suis fébrile, je n'ose pas et je me rassure en utilisant le numérique, et du coup, il faudra 10 ans pour que je me dise, bon, allez, tente le coup de l'aquarelle. Au pire, si ça marche pas, c'est que 200 pages. Donc j'ai vraiment pris un risque comme ça. Et qui, Ouais, qui valait le coup en fait. C'est une façon de surmonter ses peurs qui a payé dans tous les sens du terme parce que c'est une technique que j'affectionnais énormément et qui apporte quelque chose de fort parce que par rapport à ce retour sur l'enfance, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a juste deux zones de lumière. Vous voyez, il y a une zone d'ombre, une zone de couleur. On n'est pas dans le dégradé. Et en fait, ça, c'est les techniques qu'on utilise aussi en animation quand on utilisait des cellos, ou en tout cas pour les personnages qui bougent, on ne peut pas se permettre de faire trop de dégradés. On tranche, vous voyez. Donc en fait, c'est aussi un rappel à l'animation qui est quand même un art que j'affectionne. Et ben, je le réutilise en BD, mais avec une technique plus riche, vous voyez. Et en fait, il y a plein de clins d'œil, il y a plein de retours à des amours et des passions d'enfance qui sont redigérés dans un travail d'adulte que je pense qu'ils font du bien à tout le monde, qui nous resitue dans une époque bénie et qui redonne de la joie.
Et donc 200 pages à l'aquarelle, c'est pas un peu long, c'est pas un peu fastidieux, c'est...
Si, 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 c'est fastidieux. C'est fastidieux. Après, il faut trouver des méthodes pour se renouveler, pour pas avoir l'impression de se répéter. C'est vrai que peut-être l'étape la plus fastidieuse pour l'instant, c'est l'aquarelle. Mais moi, je ne désespère jamais de trouver une méthode ludique de travailler. Donc, je continue à chercher, à faire évoluer ma technique pour la rendre de plus en plus instinctive, pour enlever le labeur. Ah, ben ça, c'est ces petites compos. Parce que pendant le livre, j'ai jamais autant travaillé à côté pour un autre album. Justement, d'habitude, je réfléchissais en termes de rentabilité, parce qu'il faut remplir le frigo, hein, faut payer les traites, etc. Donc, j'avançais le plus vite possible sur mes planches en me disant que tout ce qui était extérieur, c'était du temps perdu. Et pour ce livre, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. J'ai dépensé de l'argent à côté. J'ai réalisé plein d'images, plein de choses en dehors du projet, parce que j'ai eu tout à coup la révélation que ce qui comptait, c'était de faire vivre cet univers. C'était pas qu'il me fasse vivre, mais c'était que moi, je le fasse vivre. Donc, je me suis retrouvé à faire des boulots alimentaires, ce que je faisais plus depuis un certain temps, à côté du projet, mais parce que j'avais réinversé la hiérarchie des choses, l'importance des choses. C'était pas moi qui devais vivre, mais c'était ce monde. Et du coup, en fait, il y a plein de choses que j'ai fait autour, plein de dessins, plein d'illustrations. J'ai même fait une petite sculpture que j'ai finalisée, que j'ai moulée, etc. Et je pense que c'est ce qui a donné toute la force et tout l'intérêt de ce projet. C'est le monde, en fait, que je me suis autorisé à créer en dehors de toute rationalité économique, en fait. Si vous expliquez la façon dont j'ai travaillé à quelqu'un, il vous dira c'est n'importe quoi, tu pourras pas vivre comme ça. Et puis finalement, ça a marché.
Ça a plutôt bien marché d'ailleurs, la sortie de la mécanique céleste.
Ouais, ça m'a donné raison.
Avant de passer la parole au public, parce qu'il y a déjà 52, quels sont tes prochains projets?
Et ben là, je suis en train de finir une suite en fait de Mécanique Céleste, puisque mon éditrice avait très envie qu'on continue. Et moi, pour une fois, j'avais laissé les portes ouvertes. C'est-à-dire que d'habitude, quand je finissais un projet en solo, j'étais justement un peu angoissé par la suite, parce qu'on est un peu à sec. Et j'acceptais des propositions. Et à chaque fois, on m'a proposé des livres en collaboration, que j'ai accepté, hein, mais qui m'ont pris des années et des années à réaliser. Et là, je m'étais dit, laisse la porte ouverte. Donc, quoi qu'il arrive, si on me propose un boulot pendant que je suis en train de faire le livre, je l'ajournerai. Et d'ailleurs, j'ai reçu des propositions extrêmement intéressantes à la fin du livre. Et j'ai expliqué au scénariste de renom qui me proposait ça, mon contrat passé avec moi-même. J'ai dit, je suis désolé, je me suis interdit de répondre. Et j'ai bien fait, parce que du coup, ça m'a libéré de l'espace derrière. Quand il s'est avéré que le livre a fonctionné.
Est-ce que vous avez des questions dans le public? Soyez pas timides, on n'est pas nombreux et on ne mange pas.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là déjà. Moi, je vous ai découvert avec Fausse Garde, la réédition. Et justement, en fait, après le succès Mécanique Céleste, tous vos bouquins ont été réédités, il me semble. Ça a permis de refaire un rebond sur les, enfin, comment dire, pas, ouais, un rebond des ventes, mais aussi de l'estime au niveau des autres livres, notamment Le Bel Âge ou celui avec Pour l'Empire. Enfin, comment vous avez vécu? Est-ce que ça a vraiment relancé d'autres livres aujourd'hui? C'est des projets qui reviennent ou c'est des projets qui sont terminés, et même si ça a pu être
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la grande joie que c'était, C'est que donc moi, je suis quelqu'un qui œuvrait depuis les années 2000 à travers mes films, mes bandes dessinées, etc. Et à chaque fois, voilà, c'est des livres qui sortaient puis qui disparaissaient assez vite. Et bah, parfois, on dit ça, on dit qu'il faut un film ou un livre et que c'est ça qui va consacrer tout le reste. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire, avec la sortie de ce livre, c'était un peu comme la consécration d'un auteur. Ce qui fait que ça a permis que tous ces travaux dans lesquels je m'étais extrêmement, énormément investi puissent être à nouveau mis en avant. Et c'était un peu comme un travail d'archéologue. C'est-à-dire, on soulève une couche et en fait, on se rend compte que tiens, il y a déjà tout ça qui est fait. Ce qui est chouette, c'est que moi, j'assume tout ce que j'ai fait et j'aime tous ces livres. Donc, ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir à nouveau les soumettre aux yeux du public parce que les sorties, en fait, en bande dessinée, c'est comme en cinéma. Ça peut être extrêmement cruel. Quand ça se passe mal, votre livre, il sort 15 jours, il est déjà mis sur la tranche, on ne voit plus sa tête et puis il disparaît, quoi. Ça peut être très cruel. Mais le fait, voilà, là, de tous les voir ressortir un an après, c'est moi aussi qui suis allé voir. Donc il y avait deux livres de chez Dargaud, c'était plus simple puisque c'était déjà l'éditeur. Mais pour Fausse Garde, par exemple, c'est moi qui suis allé voir Van de West en lui disant, il y a un livre que je sors chez Dargaud, il va être chouette, ça serait l'occasion de ressortir Fausse Garde. C'est moi qui ai vraiment fait tout ce travail de ressortir à nouveau c'est mes bébés, quoi. Et ça fait partie d'une sorte de consécration d'auteur où ah, ça y est, enfin, j'étais considéré. Comme quelqu'un qui produisait. Et c'était un vrai plaisir d'enfin d'avoir cette reconnaissance-là, ouais.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour, je me demandais quelles étaient vos influences en termes de dessin?
J'ai mis de côté quelques petites références pour Antoine. Déjà en termes d'univers, en termes de dessin, je pense que vous allez être très peu surpris. C'était les affiches de films.
Oui.
Voilà, ça c'est bien, c'est Dragon Ball.
Ouais.
Ça c'est très bien, ça. Ça c'est très très bien. Ça c'était toute ma jeunesse. Alors il y a du japonais, ne croyez pas qu'il y a que du japonais, parce que j'ai pas mis les références des autres tellement ils sont connus. On va tomber sur du Akira, qui est un film que j'ai vu un
Tom
moment.
Sawyer.
Tom Sawyer, vous voyez la cabane dans les arbres, je l'ai mis pour la cabane dans les arbres et pour l'esprit de l'enfance. Ça, c'était vraiment un dessin animé qui me remplissait de bonheur. Akira, bon, ça, c'était. Alors, ouais, Miyazaki pour l'animation. Mais après, ça, c'est des choses qui sont arrivées sur le tard. Mais je pense que très, très jeune, moi, j'étais un gros lecteur de Franquin. Ça, c'est resté pour les onomatopées, les attitudes, les expressions, la finesse d'analyse de palette d'expression et de mouvement de Franquin, elle est vraiment sans égale pour moi. C'est brillant, quoi. Et j'étais fan de Rahan. J'adorais Rahan quand j'étais petit. Il dessinait vachement bien les corps. Et puis, j'avais fait un mémoire donc, sur Loisel et la quête de l'oiseau du temps, dont j'appréciais pas particulièrement le dessin. Et puis, c'est son histoire, c'est sa narration qui m'a happé, qui a fait que finalement, ben voilà, je suis tombé amoureux de son boulot. Et puis sur les années plus tardives, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Taiyo Matsumoto. Et je pense que ma BD préférée, que j'ai pas mis là, parce qu'on oublie toujours ce qu'on préfère, c'est la bande dessinée Ping Pong, qui a un dessin assez particulier, assez indé, mais qui est aussi un amoureux du travail de la BD occidentale, qui aime beaucoup Moebius, Prado, etc. Donc c'est vraiment des. Je sens qu'en fait, c'est les auteurs qui ont fait un pas vers l'Occident. Et du coup, ça nous permet de faire des ping-pong, des dialogues comme ça, entre les civilisations de dessin. Et moi, je pense que c'est ça que j'aime, moi, c'est de pas avoir à choisir ou à plonger dans un genre, me dire, moi, je fais du manga-manga, ou je fais de la BD franco-belge-franco-belge. J'aime laisser les différentes influences qui m'ont passionné infuser. Pour créer mon dessin. Et je pense que dans Mécanique Céleste, plein de gens, ils voient ce qu'ils ont envie d'y voir. Ils vont y voir du comics, mais aussi du manga, du franco-belge. Et les gens, ils trouvent quand même leur compte. C'est ça qui me plaît. On a réédité Mécanique Céleste en format presque manga pour parler aux jeunes qui ont la chance d'avoir un pass culture. Ils pourraient peut-être l'acheter pour moins de 10 euros. Et moi, ça me fait super plaisir parce que j'ai grandi en banlieue. Je faisais beaucoup de sport en club. Et je voyais mes copains ne plus du tout lire de bande dessinée franco-belge. Et en fait, moi, je trouve ça extrêmement dommage. Je trouve ça très bien qu'ils lisent du manga parce que je trouve ça vachement bien. Mais je trouve dommage qu'ils ne trouvent pas des lectures à leur goût faites par leurs contemporains. Je trouve ça dommage, en fait. On a plein de choses à raconter. Ils écoutent du rap français, mais ils lisent pas de BD française. Je me dis, mince, c'est quoi qui se passe? Faut renouer un lien, quoi.
Est-ce que d'ailleurs tu as été Vigan a ressorti sous un nouveau format de la mécanique?
Est-ce que j'ai été?
Vigilant et attentif au changement de format et à
Ouais,
l'adaptation
ouais. Bah,
de
j'ai
tes planches.
regardé, j'ai quand même fait en sorte que le format soit lisible, hein. J'aurais dit, bah, vous voulez le réduire, mais faut que ça corresponde à quelque chose. Donc, oui, on a quand même vérifié. Ouais.
Enfin, c'était juste ma petite question.
Ouais, je sais pas si ça répond à tes questions sur les influences, mais il y avait Juan Jiménez aussi que j'aimais beaucoup, qui faisait de la SF. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui nous a quittés il y a 3-4 ans.
Qui travaillait sur la caste des Métamarrons
Ouais.
avec.
Sur la fin de sa carrière, il a travaillé sur la caste des Métabarons, qui pour moi, est déjà son dessin est en train un petit peu de se ramollir, mais avant il a fait des chefs-d'œuvre, Le Quatrième Pouvoir, Gangrène, des recueils aussi qui sont vraiment à lire, qui sont super, parce qu'on est aux Utopiales, donc je pense qu'il faut, on est toujours gagnant à redécouvrir Juan Jiménez, un Argentin génial.
Est-ce qu'il y avait une autre question, je crois?
Qui travaillait à l'aquarelle aussi d'ailleurs.
Rebonjour, c'est encore moi. Je suis tout à fait d'accord avec Tevio Matsumoto et Ping Pong. La série d'animation par Maki Waza est merveilleuse aussi. Bon, bref, parenthèse fermée. À propos des deux albums que vous avez fait avec Bertrand Gatignol, donc avant que lui travaille sur Les Ogres Dieux, c'est Jeanne et Pistouvi. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur la façon dont vous avez travaillé sur ces.
Ouais, c'est un projet bizarre. C'est un projet bizarre parce qu'en fait, c'est un livre que j'adore aussi. J'adore Pistouvi, qui est donc un livre que j'ai écrit pour Bertrand Gatignol. On bossait ensemble, en fait, on se connaissait depuis l'école. Et un jour, il me dit, ouais, je veux faire un bouquin, j'en ai marre et tout, je vais aller chercher un scénariste. Et moi, je travaille sur mon deuxième film. Je dis, mais je vais t'écrire une histoire. Pourquoi tu... Vas-y. Et donc, il me propose, vous allez voir, c'est une espèce de conte, en fait, qui parle de l'enfance, qui n'est pas forcément pour les enfants, mais qui parle de l'enfance. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux dessiner? Et donc, il me dit, bah, moi, je veux dessiner ma petite nièce qui s'appelle Jeanne. Je veux dessiner un renard, une forêt de pain, de blé et des oiseaux bizarres. Il me dit ça. Je dis, OK, bon. Donc, je laisse reposer ça. Jusqu'à temps que ça prenne forme. Un gros tracteur, il voulait aussi. Jusqu'à temps que ça prenne forme et que ça ressemble à quelque chose. Donc, j'étais, je ne sais pas si vous voyez les tests de Rorschach en psychanalyse. On vous montre une tache. Et puis au bout d'un moment, qu'est-ce que vous y voyez, quoi? Et en fait, on va toujours trouver, hein, quelque chose à y voir. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai trouvé tout à coup, qu'est-ce qui tout à coup architecturait toutes ces visions qu'il avait. Et donc il a réalisé ce livre que moi j'aime vraiment beaucoup. Il a rendu vraiment hommage à mon histoire. Et quand on est allé voir Dargaud, qui était engagé, qui avait très envie de le signer, ils avaient justement ce petit doute entre le style manga ou franco-belge. Ils se sont dit, mais comment, sous quel format on va le publier? Et à un moment donné, ils ont eu une idée folle. Ils se sont dit, bah, on va en faire un manga et une BD franco-belge. Et ils n'auront pas le même titre. Donc en fait, Pistouvi, c'est la version noir et blanc petite de l'histoire originale. Et après, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi le format, changé le titre, sorti en deux volumes, ce qui s'appelle Jeanne. Moi, j'aime beaucoup moins Jeanne. Je trouve que la couleur, le format fonctionnent beaucoup moins. Donc moi, j'engage tout le monde à lire Pistouvi. Mais on voulait même à un moment donné prendre des pseudonymes pour se faire passer pour des Chinois ou des Japonais, pour que les deux choses soient totalement distinctes. Et au dernier moment, l'éditeur s'est dit non, je pense que les lecteurs pourraient vraiment penser qu'on les escroque. Il ne faut pas faire ça, même s'ils se disaient qu'il y avait de fortes chances pour que les lecteurs ne se croisent jamais. C'est-à-dire que les gens qui lisent du Spirou auraient lu Jeanne, et puis les gens qui lisent Naruto auraient lu Pistouvi. C'était une des idées un peu folles qu'avait Ostermann à l'époque. Bon, on n'est pas allé au bout, mais on a quand même fait les deux formats avec deux titres différents.
D'accord, merci.
Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai toujours en stock. Est-ce que tu aurais envie de retourner à faire de l'animation ou avoir des projets plus ou moins filmiques maintenant?
Ben, je m'étais fait une promesse après mon deuxième film qui avait été très douloureux. C'était que je ne retournerais pas à l'animation avant d'avoir une œuvre, une de mes œuvres que je puisse adapter. Et avec Mécanique Céleste, j'ai eu plusieurs propositions. Et du coup, je me suis dit, ben, là, peut-être que ce serait le moment de réaliser cette promesse, donc de réaliser moi-même le film, etc. Et je dois avouer que ces propositions sont arrivées en plein Covid avec la fermeture des salles de ciné. avec une espèce de flou absolu sur la vie et l'itinéraire des films. Et déjà, en temps normal, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué, comme je vous disais. Si votre film ne faisait pas assez d'entrées au UGCDA à 11h du matin le premier jour, déjà, votre film était condamné, vous voyez. Et alors après, avec le Covid, les fermetures, etc., c'était même plus la peine d'y penser. Et comme je sais l'énergie que ça représente, ça m'a un peu ralenti sur l'envie. J'avais moins envie de faire un film de plus pour Netflix. Donc là, l'envie est un peu en stand-by, mais je sais qu'il y aurait la possibilité d'y aller.
Est-ce que ça t'arrive encore, est-ce que ça t'arrive juste pour le plaisir quand même d'animer certains personnages que tu dessines en te disant « je vais m'amuser à les animer sur une seconde ou deux »
Bah, je me suis amusé à animer la fin de la bande-annonce de Fausse Garde, où je me suis vraiment fait plaisir. Mais sinon, j'ai pas vraiment remis les mains dedans. Il y a tout un protocole à mettre en place pour trouver les logiciels. Ça me fatigue un peu d'avance, mais alors que c'est vraiment un des arts les plus magiques, l'animation, puisqu'on anime, c'est-à-dire on crée, on donne une âme à ce qu'on fait. Et là, on a, au-delà de la BD encore, hein, on a un truc qui est immédiat. C'est vraiment voir bouger ce qui se passe dans votre esprit à l'écran, c'est vraiment un plaisir assez fou. On a vraiment le sentiment de donner la vie.
Est-ce que vous avez des questions? Il reste encore 10 minutes, soyez pas timide. Hein. Sinon, je peux encore en poser. Quels sont pour toi les grands auteurs actuels de bande dessinée qui t'ont marqué ces derniers temps? Et déjà, est-ce que tu as le temps de lire ce que font les camarades de l'édition en bande dessinée malgré ton travail? Et de deux, quel est le dernier truc qui t'est marqué, science-fiction ou non, bien sûr?
Ouais, ce qui est compliqué, c'est que moi, je deviens un très mauvais lecteur de BD, quoi. Je reste un peu sur mes acquis. Et puis, en plus, le problème, c'est que quand je suis en période de création, je me méfie de ce que je vais lire, parce que si c'est bien, ça va me dérouter. Je vais me dire, ah mince, j'aurais dû faire ça et tout. Donc, en fait, quand je suis sur 3 ans de travail de BD, ben, je n'ai presque pas de BD, quoi. Mais j'en ai quand même lu qui sont vachement bien. Je suis tombé sur, bah, je l'ai vu là, c'est super, j'ai vu Le Grand Vide de Muraviec. Déjà, le dessin était génial, quoi. Je me dis, waouh, la puissance du dessin de Muraviec. Et son histoire est super, et je crois que c'est un premier bouquin en plus. Donc j'ai l'impression qu'il y a une relève qui fait mal, quoi. Ouais, avec des autrices et des auteurs qui font des paginations incroyables, qui racontent des histoires qui ont vraiment énormément de fond. J'ai celle-là en tête, là, mais il y en a sûrement plein d'autres, mais je suis vraiment un assez mauvais lecteur de BD.
Qu'est-ce que tu fais du coup pour te vider le crâne après tes séances de travail?
Bah, la musique, ça va m'aider. La musique, ça peut m'inspirer plus parce que c'est vraiment loin, quoi. Pour le coup, ça va être une ambiance, ça va être une humeur. Mais il n'y a aucune concurrence possible entre l'image et le dessin. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'écrire des scènes fortes. Par exemple, la dernière scène de Fausse Garde, pendant que je la mettais en scène, que je la dessinais, il fallait que ça soit la scène la plus puissante. Des années de travail, il faut concrétiser ça dans une scène. Et en fait, j'écrivais ma scène avec une musique comme une BO en tête. Donc, j'écoutais à l'époque un morceau de 8 minutes de Sigur Rós, qui était hyper endiablé comme ça, qui était un morceau à faire pleurer, quoi. Et en fait, je travaillais ma mise en scène et mon dessin jusqu'à temps que ça résonne avec la musique que j'écoutais, justement. Et ça me permettait de toucher juste, parce que la musique était me touchant déjà. Si mon image, si mon dessin résonnait avec ça, c'était bon. Et ça m'est arrivé une ou deux fois de faire ça en BD, et c'est des moments assez inoubliables.
J'ai une canche que j'ai envie de montrer. Hop, hop, je crois que tu l'as mise. Ah non, je ne l'ai pas. Si, la planche du...
Donc ça, c'est, ouais. Ça, c'est les planches clés un peu de l'album que j'avais mis de côté, pour ceux qui n'ont pas encore vu le bouquin.
Comment tu travailles ce genre de planche à la typographie?
Alors ça, typiquement, c'est intéressant. Si tu peux revenir juste avant, l'image d'avant. Donc là, on est sur le deuxième match, sans spoiler. Bon, il est remporté par l'héroïne. Et d'un coup, je sais pas si vous voyez en bas de l'image, donc elle marque le dernier point et on a tous les spectateurs qui se lèvent, un peu comme des robots. Et sur la page d'après, on les voit qui font une espèce de, qui se tapent sur la poitrine, un peu comme les Islandais pendant la Coupe du Monde, qui se tapaient dans les mains et qui poussaient une espèce de cri de viking. Et là, boum boum, ils se tapent deux fois sur la poitrine et ils crient à l'unisson le nom de l'héroïne, Aster. Et juste après, donc on voit l'image d'après, on voit le stade où ça se réitère. Et en fait, je suis vraiment extrêmement content de cet effet à la lecture qui fonctionne de manière physique. J'avais jamais réussi un truc comme ça grâce à la typo, grâce à la mise en scène. Mais pour ça, il a fallu avoir une vraie passion sportive. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont regardé la Coupe du Monde 2000, la Coupe d'Europe 2000 avec la France, France-Italie en finale. Je ne sais pas s'il y en a des gens qui aiment le foot comme ça ici. Et voilà, c'est un match. Allez, je le résume très vite parce qu'il y a des gens qui ça ennuie profondément, le foot ou le sport. Mais à la fin de cette partie où on est dominé par l'Italie pendant tout le match, où la France est brillante, c'est un match de frustration absolument intense. Donc on est un spectateur frustré. Et à la dernière minute, il arrive ce qui n'est jamais arrivé dans le match. C'est-à-dire que la balle arrive sur les 10 derniers mètres. Et on entend la foule, pour la première fois, qui respire à l'unisson. On entend la foule qui fait « On a un blanc pendant que la passe est faite et le tir est marqué par Trezeguet. Et là, tout à coup, on a une explosion de foule. On a une explosion d'énergie et d'humeur à laquelle, évidemment, en tant que spectateur, je participe. Et je me dis, mais si ce n'est pas un des trucs les plus puissants du sport, ces moments-là, justement, où on se dit que ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas. Et ça arrive. Et ça, j'avais envie de le retranscrire dans voilà, la foule à l'unisson, à quel point ça peut transcender justement un match ou créer la légende. Et Aster qui se fiche complètement de ce qui se passe, elle joue juste sa partie, tout à coup elle est dépassée par l'événement et elle se rend compte qu'il vient de se passer quelque chose d'incroyable par la réaction de la foule justement. Et moi c'est ça que j'aime, c'est essayer toujours de retranscrire des choses qui m'ont marqué, d'essayer de les retranscrire en BD, parce que je me dis que si moi ça m'a plu, bah, ça va plaire au public quoi.
Eh ben, je crois qu'on a le mot de la fin.
On est bien.
On vous remercie tous d'être venus aussi nombreux à cette rencontre et on vous souhaite une bonne suite de festival. Merci à tous et à toutes.
Merci beaucoup.
Petite info, Merwan sera en dédicace d'ici...
Dans un quart d'heure.
Dans un quart d'heure à la librairie. N'hésitez pas, si vous voulez, vous faire dédicacer vos albums.
Merci.